alors là, tu vas essayer de trouver. Le plus. Voilà. 1800. Non, 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 avant. Même avant. Parce qu'elle est née en 1893, en février. À moins qu'elle ne soit née dans le péché, comme dit David. Table des. Non, non, non. Quand ils mettent table décennale, ça veut dire qu'ils ont fait naissance, mariage, décès sur la même. Et dans l'ordre, naissance, mariage, décès. Bon, alors, tu vas utiliser ton feeling et tu vas taper là pour mettre les chiffres qui peuvent t'amener sur une page. Alors, ABC, il va falloir aller, à mon avis quand même, ça fait pas mal, hein. Bon, je sais pas, moi j'irai dans les 100. Oh, non, 80. C'est au pif, hein. Oui, allez, vas-y, 80. 70 si tu veux, d'accord, t'as raison. Bon, alors, attention, t'as combien? 399 pages. Alors, tu regardes ici, ça va aller, tu te rends compte? C'est beaucoup, là, hein? Mais ça va être mis par ordre alphabétique. D'abord, des naissances. Est-ce qu'il s'agissait d'une naissance, David? On va, bon, alors, tu vas... bah, oui, alors là, on a été, mais on est fou, quoi. Moi, allez, 25. T'es d'accord? Allez, 25. Non, mais on ne pourra faire que de l'à peu près, hein. C'est... Et là, encore, on a des numéros de registre. C'est génial, quoi. Alors... On est à C. Alors, CH. Non, mais il me faut CH. Alors, tu regardes ici. Non, allez hop. Tu piques là-bas. Tu regardes. À chaque fois, tu regardes là. Hein? CH. Allez, hop, tu passes après. La suivante. Bah, CHA. CHR. Hop. Voilà. 3 février 1885, naissance. Donc tu es dans les naissances, donc là, courage, on arrive en avant, c'est plus suffisant. Parce que s'il y a tous les actes, hein.
Oui.
Et puis on a appartenu le numéro. Ah non. Suzanne, oh, Marie, t'en as trouvé.
Regarde, 3404.
Alors attends.
Alors là, tu peux te laisser faire un document Word.
T'as vu l'avance rapide où elle est? D'accord.
Voilà. Non. Parce que là, t'as la date, tu te rends compte?
C'est horrible.
Si tu nous enlèves la date, on est foutu.
Alors là, en plus, t'as un numéro de registre. Enfin, c'est du gâteau, ça.
T'as vu les actes?
Alors, 1568. Alors, tu peux sélectionner avec ça. Tu peux sélectionner. Alors, tu sélectionnes bien ça, quoi. Soit sur le premier, soit sur le deuxième. Voilà. Et là, et vous avez à gauche des colonnes avec archives en ligne, communes en ligne, actes généanettes, etc. Donc vous passez à archives en ligne. Et archives en ligne, vous avez tous les départements, donc déjà avec un lien direct vers le département. Ça veut dire qu'ils ont numérisé leurs archives et qu'on peut aller les consulter sur Internet. Alors là, c'est vraiment énorme, hein. Il y a... Donc par exemple, et en fait pour une amie là, qui n'avait rien, j'ai pu remonter très vite parce qu'il y avait un maniaque qui avait enregistré les mariages sur 1000 pages à 3. Donc, je lui ai trouvé ses ancêtres formidables. Voilà. Donc, alors, David, c'est du côté de Jean. C'était ceux qui traitaient la... c'était le pire. Il paraît que c'était horrible comme métier. C'est-à-dire, au fond, c'est ceux qui faisaient le fil à soie.
Disparu en Égypte.
Ah oui, c'est mon arrière-grand-père. On l'a jamais retrouvé. Je le soupçonne de plein de choses, j'en sais rien. Ah oui. Alors, il y a ça. Et puis à gauche, il y a aussi plein de choses.
Hein. J'étais notaire. Je sais que sa femme, mon arrière-grand-mère, a été déshéritée parce que c'était deux jumeaux qui avaient épousé deux petites cousines. Et il y en a un qui était en Haute-Marne à 10 km de l'autre, donc le frère de mon frère jumeau de mon arrière-grand-père était en Haute-Marne, à 10 km de Saint-Trait, qui est un petit bled de Haute-Saône, où mon arrière-grand-père avait installé une étude de notaire. Et il avait cette étude de notaire. Et il avait entre 49 et 50 ans, il a disparu. Si bien que si vous allez là, vous aurez une idée d'abord de celles qui figurent ou de celles qui ont été ajoutées, parce qu'ils se renouvellent tout le temps. Et en plus, ils ont même aussi tous les sites d'entraide, tous ceux qui ont fait, parce qu'il n'y a pas seulement des départements qui ont mis leurs archives ou des communes, il y a aussi des gens qui ont fait des relevés. C'est des maniaques de la généalogie, et ils ont fait des relevés. Et ils les mettent en...
Ah oui, alors quelquefois, ils disent... ils donnent leur relais, enfin, ce qu'ils sont par rapport aux autres. S'ils sont voisins, ou s'ils sont l'oncle, ou la tante, etc. Non, mais là, apparemment... Propriétaire.
Sans profession. Joseph.
Il y a un certain Nicolas Petier qui est venu s'établir vers 1790 à Saint-Trait. Nicolas Petier, c'est un de mes sœurs, d'accord ? Et il a installé une étude de notaire, là. Il a été maire de la ville, et comme on m'a envoyé un CD avec tous les actes, ben j'ai pu voir, il remplissait les actes. J'ai pas seulement sa signature, j'ai son écriture sur plein d'actes. Il ne le faisait pas simplement quand c'était sa famille, sa propre famille. C'est quelqu'un d'autre qui écrivait les actes. Mais donc, il a eu un de mes ancêtres qui était... Le neuvième de la famille, il s'appelait Pierre-Étienne Stanislas. Lui, il a repris l'étude. Il a été notaire aussi toute sa vie. Et puis après, Pierre-Étienne Stanislas a eu les deux jumeaux. Donc, extraordinaire, Lucien et Abel. Lucien, Nicolas et Abel. Abel, Nicolas aussi, mais leurs deux grands-pères s'appelaient Nicolas. Donc, ils ont donné les prénoms. C'est les deux grands-pères qui sont allés les déclarer avec le fils. Et ils ont mis pour Abel, Nicolas, ils lui ont mis un troisième prénom. Et ça, c'est fabuleux. Barthélémy. Vous voyez d'où ça vient ? Barthélémy, c'est le nom de famille de la mère. Si bien qu'il s'appelle Abel. Abel Petier, bon. Mais il s'appelle Abel Nicolas Barthélémy, ça fait comme son grand-père. Parce que sa femme s'appelait Barthélémy, la mère, elle s'appelait Barthélémy, on est d'accord. La mère de Nicolas Petier, de Pierre-Étienne Stanislas, elle s'appelait Barthélémy. Virginie Barthélémy. Je sais pas si ça apparaît jusque-là. Hein. Alors on ne sait pas, donc on peut toujours l'archiver quelque part, hein, et puis après le mettre sur une clé ou je sais pas quoi. Alors bah, il faut faire une saisie d'écran, et puis... Et alors moi ce que je conseille à ce moment-là, bon, il faut le réduire. Oui. Il cherche des actes, parce qu'on a trouvé des noms d'eux avec des références, et on cherche des actes. Sur les archives qui sont en ligne, qui sont numérisées. On a beaucoup d'archives numérisées, on est sur Toulon. Alors ils sont obligés de passer par l'étape décennale, parce que sinon c'est infernal, quand on n'a pas la date exacte.
J'arrive pas à lire, c'est un I, un U là, donc j'y vais passer. Le I, le O.
Mais c'est un I. Oui, c'est un I. Ça c'est un G. Tout d'un coup...
Oui,
on ne sait pas. Ça a pu être mis. Parce que mais c'est complètement international aussi. Je ne dis pas que ce soit à l'étranger, mais moi j'ai trouvé des archives pour l'Allemagne. Des archives pour la Suisse. Enfin bon, parce qu'il faut voir que c'est une mode. très très envahissante. Il y a beaucoup de gens qui font de la généalogie et puis il y a beaucoup de gens qui cherchent pour les autres. Voilà. Donc là, tu cherches par... Ah oui. Donc elle s'est mis un identifiant, un mot de passe, parce que très souvent, ils nous demandent de s'inscrire hein, sur les sites. Parce que là, on est obligé de chercher dans les actes avec des écritures, plus ou moins. Tu parlais de l'écriture, mais attends, t'as rien vu. Parce qu'il y en a qui font de la paléographie, qui vraiment donnent des cours, on en trouve même sur Internet, pour expliquer comment on écrivait au Moyen-Âge. Parce qu'ils n'écrivaient pas comme nous. C'est pas toujours très facile, mais enfin, en gros, moi, j'ai montré l'extrême en montrant mes actes en allemand gothique et en danois. Ça, c'est... Évidemment, c'est une autre langue. Pour innover, ce que je voulais, c'est qu'on aille, qu'on demande aux archivistes de nous accueillir aux archives communales, parce que ça se fait pas normalement. Qu'on ait une autorisation, qu'on puisse aller les voir, et qu'à ce moment-là, je vous montre comment on fait pour prendre des actes. Ils sont fous, ils ont appelé une fille Cécile, une fille Céline. Et puis en retrouvant les papiers, et puis la femme de mon cousin avait gardé plein de papiers. Alors grâce à Internet, grâce à la photo numérique, on s'envoie, par exemple, elle m'a envoyé l'acte de décès, elle ne m'a pas envoyé d'acte, elle m'a envoyé le faire-part de décès de Céline, dite Cécile Jensès. Et en fait, c'est elle qui ne voulait pas s'appeler Céline. Elle s'appelait Cécile. Alors, justement, avec notre prof de généalogie, on s'est un petit peu, enfin pas battu, mais il voulait qu'on indique uniquement un des prénoms. Et ça ne marche pas, parce que quelquefois, nos aïeux, ils choisissaient comme prénom d'usage un autre prénom, qui était quelquefois le troisième. Et là, j'ai eu beaucoup de mal, hein, parce que je trouvais des enfants, mais je ne savais pas si Édouard était le même que Jean, donc Jensès. C'était le frère de mon arrière-grand-mère. Et en fait, eh ben, cette punaise-là, il se faisait appeler, enfin, il s'appelait Édouard. Il est allé déclarer mon père en tant que grand-oncle. Je me suis dit, mais au fond, il s'appelait Jean, en fait, en vrai, et mon père aussi, je pense que c'était son parrain. Comment lire vraiment? Tu sais. À la débrouille, hein. C'est un peu ça. Hier, donc c'est avant. C'est bien pour réviser l'alphabet. Ouais. Ah, voilà du Giovanni. Ah, Giovanetti. Ah non. T'as les noms des femmes là. Hein. Voilà, mais ça c'est. Il a ramassé des gens comme témoins là, au passage. C'était pas forcément des gens de la famille, mais quelquefois, ça permet de remonter parce qu'on trouve le grand-père. On trouve la grand-mère. Oui. Non, les femmes, non. Elles n'étaient pas là. Elles n'étaient pas témoins. Elles ne pouvaient apparaître que à leur mariage. Au mariage de leurs enfants et comme marraine. Sinon, elle n'existait pas. C'est pas elle qui faisait les déclarations. Vous n'y songez pas. Ça t'intéresse de faire des trucs comme ça? Et puis d'aller... Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on aille à la grande histoire. Qu'on découvre l'histoire de notre famille, c'est une chose, mais qu'après, on arrive à la grande histoire. Par exemple, moi j'ai étudié la situation d'un prêtre pendant la Révolution et je l'ai suivi jusqu'à sa mort. Et j'en ai appris, mais extraordinaire. Parce que les prêtres réfractaires, ils étaient envoyés au pénitencier et quelquefois ils allaient aux galères. Alors j'ai trouvé plein d'histoires. Lui, il n'a pas été réfractaire. Il a juré fidélité à la Constitution, sa haine du roi, etc. Mais le nouveau conseil municipal, il n'a eu une mairie qu'en 1865. C'est Napoléon, 69, qui l'a fait construire. On a une copie de Fontainebleau chez nous. C'est Napoléon III qui a fait construire ça. Et en attendant, entre 1792 Et puis 1869, ils cherchaient toujours des salles pour se réunir. C'est l'éternel problème. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en 1798 ? Ils sont allés chercher ce brave curé et ils l'ont viré de son presbytère. Ils l'ont piqué sa place. Donc, et ils l'ont envoyé, sur un décret de la Convention, ils l'ont envoyé au pénitencier, à pied. Il avait 76 ans. Enfin, horrible. En Vendémiaire. Vendémiaire, c'est un mois, c'est en novembre. Il fait hyper froid. Surtout avant, il n'y avait pas le réchauffement climatique. Et en fait, il a été sauvé par l'oncle de Joséphine, parce que Bonaparte a acheté un château. Et l'oncle, je crois Joseph de Beauharnais, venait à l'église. Et les oies, ils lui ont dit, mais notre curé, il a été envoyé loin, il a été déporté, ça s'appelait. Et en plus, il a emporté la clé du tabernacle, ça se fait pas, et la clé de l'armoire qui renferme les habits liturgiques. Ça va moisir, ça va pas. Alors ils en ont parlé au conseil municipal, ils ont dit, vous n'avez qu'à le rendre à ses parents. Il y avait des parents encore à 76 ans, surtout à l'époque. Bon, bref, et probablement qu'il en a parlé à sa femme, à Joséphine, et Joséphine en a parlé à son nouveau consul de Marie. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont écrit de nouveau un ordre pour le ramener. Donc il est revenu à Rueil. Alors moi, je l'avais toujours pas trouvé, je l'ai trouvé. Il n'a pas récupéré son presbytère. Il a été logé sur la place de l'église au deuxième étage. Et il est mort de sa belle mort en 1807. Et là, il a été enterré à un endroit qui est sous le marché. Bon. Mais de fil en aiguille, j'ai appris les mois républicains, ce qu'il advenait des prêtres. Vous savez qu'ils en ont bavé à la Révolution. Hein. Et un tas de choses, voilà. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé vous entraîner dans l'aventure. Alors moi, ce que je vous propose, c'est ce qu'on pourrait faire, c'est un blog. On se fait un blog où au fur et à mesure, on entre ce qu'on a trouvé, etc. Parce que si on ne va pas taper du côté des ancêtres, on ne va pas savoir. C'est toujours une question de patronyme, quoi. Si on a le nom de de mariage, enfin de la femme.
Hein. Et donc, on cherche... Oui, mais il n'y a rien.
Alors... Non, mais c'est pas de Corse, c'est du Doubs. Alors, oui, alors 1915, hop, alors descend, après. Vous allez sur le site. Voilà, comme ça. Oh, Mémorum. O-R. On en avait assez quand même. À un moment, on mélangeait tous les ancêtres. Donc, ils ont dit, bon ben voilà, on va donner un numéro, mais on va donner un numéro uniquement à nos sosas. C'est-à-dire à nos ancêtres directs. C'est-à-dire qu'en fait, à l'horizontale, une même fratrie, ils auront tous le même numéro.
Non, ça non pas. Il y a que celui qui est ascendant. Les frères sont pas de numéro.
Non, mais celui dont on fait le...
Oui, par rapport à l'arbre, les frères, la fratrie, elle ne fait pas.
Non, voilà. Alors, dans le logiciel, on a un tas de possibilités. Mais ce que je veux dire... Alors, celui-ci, c'est ce qu'on appelle le décujus. C'est celui dont on fait la généalogie. Il a le numéro 1.
C'est pas le départ.
Bon. Après, le père. C'est toujours le père à gauche, hein. Avec un numéro pair, P-A-I-R. Hein. Et la mère, c'est le numéro du père plus 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, en passant de génération, ça double. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Donc quand on a compris ça, c'est déjà bien. Donc on ne pourra, nous, par exemple avec Jean, on voulait faire notre arbre en commun. Donc on a pu le faire en commun pour avoir un numéro sosa, prenant un de nos enfants. hein, parce que sinon...
Oui, pour pouvoir être sur le
même. Oui, c'est pour pouvoir être sur le même. Et c'est pour ça que, quelquefois, quand je vous ai montré sur un arbre, il se trouve que, quelquefois, on peut savoir, parce que les gens ont mis le numéro de leur sosa sur Généanet aussi, en reproduisant leur arbre. Une tante n'a pas de sosa, c'est ce qu'on appelle une collatérale. Alors moi, c'est ce que j'appelle un tonton ou une tata aïeul. Mais c'est pas le sosa. Le sosa, c'est uniquement ceux qui sont en direct. Mais moi, par exemple, si je fais la généalogie de mon petit-fils, je vais avoir d'un côté notre gendre, son père, et de l'autre côté notre fille. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut vraiment faire des arbres à l'infini avec le logiciel que j'ai. Et c'est extraordinaire, ça vous fait... j'ai renoncé là. J'en avais quand même 25 pages si je faisais toutes les générations. C'est pas mal, c'est un... Bon. Ma mère a perdu sa mère. Elle avait 14 ans. Et son père, elle avait 19 ans. Et... c'est sa grand-mère qui s'en est un peu chargée, quoi. Elle est morte quand même, elle l'a plus ou moins élevée. Mais cette femme était la première femme inspectrice des écoles de Genève. Et on a encore des livres qu'on a trouvés d'elle, avec des méthodes de lecture, etc. Elle a écrit un précis pour apprendre à coudre. C'est extraordinaire. Et elle a fait beaucoup de jaloux. Parce qu'une femme, vous imaginez, une femme inspectrice des écoles. Et quand ma mère a réussi très brillamment ses concours pour être professeure de lettres à Genève, et on lui a refusé d'exercer sous des prétextes fallacieux, en prétendant que sa mère, morte de la grippe espagnole, était morte de la tuberculose. Et ma mère s'est expatriée, c'est comme ça qu'elle a quitté Genève. Elle a passé 18 mois en Allemagne et 7 mois en Angleterre, plutôt en Écosse, et après elle est venue à Paris. Et c'est comme ça que, si elle avait voulu enseigner en France, il fallait qu'elle recommence à zéro. Il n'y avait pas d'équivalence. Voilà les trucs très, très extraordinaires. Et alors moi, j'ai retrouvé un picaire, donc par Internet, qui est aux États-Unis et qui m'a fourni plein de choses. Et un de mes cousins, le... frère et la sœur aînée de ma grand-mère, Picard.
Elle est là.
Sa sœur aînée a vécu, elle, 60 ans de plus que sa sœur. Mais son mari, il est mort. Il était meulier. Meulier, ça voulait dire qu'il s'occupait des grosses meules pour les moulins, pour tout ça. Et c'est un métier, moi j'ai trouvé une fiche sur le métier, et puis il y a un musée en Seine-et-Marne que j'aimerais bien aller voir, et ils expliquaient que les meuliers avaient un métier hyper, hyper difficile, et en fait c'était aussi toxique que quand on allait dans la mine, où on attrapait la silicose, parce que Jean il a aussi des mineurs, mais un meulier je pense que c'est pour ça qu'il est mort si tôt. On s'est demandé à 35 ans quand même, c'était tôt, mais... je sais pas, j'avais eu des archives, on m'avait transcrit parce que c'était illisible. Quelqu'un m'a envoyé ça et j'avais vu qu'il était à Moulin. Et Moulin, c'était pas Moulin dans l'Allier, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il travaillait au Moulin. Et il est mort comme ça. Et alors là, regardez ça. Donc la sœur aînée de ma grand-mère avait 3 enfants. Elle a perdu les 2 premiers en 3 semaines, ils sont morts, mais à un âge 30 et 25 ans, enfin un truc comme ça. Il y en a une, c'était probablement une leucémie, et l'autre, il était aviateur, il avait 30 ans, et le chef a envoyé deux aviateurs pour l'armée suisse, et il les a envoyés en mission, il y avait du brouillard, ils se sont pris la colline. Alors, redescends.
encore de... Oui, je crois que c'est ça. Ils sont effacés.
Et j'ai retrouvé, on a réussi, à force d'aller sur les archives, à trouver, à bloquer sa photo sur un film. J'ai fait sa photo parce que je l'envoie à mon cousin qui vient de m'envoyer ses actes absolument fabuleux. Oh là là, c'est magnifique. Mais vous allez voir pourquoi ça me pose un problème. C'est en allemand gothique ou en danois, parce qu'on avait des Danois, nous. Et en fait, donc, la sœur aînée de ma grand-mère avait 3 enfants. L'enfant qui est resté, il s'appelait William. Il a dû avoir ses archives. Et ils sont 3 petits-enfants, donc mes cousins. Et j'avais demandé à ma cousine, mais est-ce que tu as ça? Tu devrais demander à Pierre. Et j'ai demandé à Pierre, donc son frère, et c'est lui qui était détenteur des papiers de famille. Donc ça avait été d'une certaine manière passé à la fille aînée Picard, au fils aîné d'elle, et au fils aîné après. Et mon cousin, qui est un type absolument généreux, il faisait de la critique musicale aussi, enfin il a perdu sa vie pour la gagner, comme il dit. Il a été publié aussi, il a fait jouer des pièces de théâtre de lui à Genève, enfin c'est un type extraordinaire. Je lui ai envoyé cette généalogie, enfin sa partie, je lui ai fait sa partie. Il m'a renvoyé... Oh, c'est génial. Mais nos parents écrivaient en gothique. Mais nous, on sait déjà... Ça va. Quand c'est imprimé, ça va. Alors là, c'est encore mieux. Oh, c'est génial. C'est... Alors là, c'est la femme du Danois, Maria Maurer, je crois. C'est son certificat de baptême. Et qu'on lui a fourni en 1842, je pense que c'est pour qu'elle se marie. Et finalement, moi je pense qu'ils se sont mariés à Copenhague. Je ne sais pas ce qu'ils y faisaient. Moi je sais ce qu'il faisait mon ancêtre. Regardez. Ça, je crois que c'est le mariage. Alors, il y a une partie en danois. Moi j'ai fait un peu de danois, mais... Et une partie en allemand. Et là... Voilà. Et il y a des choses carrément indéchiffrables. Attendez, j'ai un certificat de vaccination aussi. Voilà. Wilhelm Picker. C'est comme ça que j'ai appris à ma cousine pourquoi leur père s'appelait William.
Mais il est vacciné de quoi, là?
Eh bien, j'en sais rien. C'est geboren, ça veut dire né anno 1848. Je sais pas de quoi il a... Il habitait à... Berne. Il était de Copenhague. Et c'est le 2 mai 1854 qu'on l'a vacciné. Mais de quoi? J'en sais rien du tout. Et c'est ça, si vous arrivez, tant que vos parents sont en vie, à avoir des infos, c'est ça qu'il faut. La maman de Jean, donc, on a visité un... Elle était fille de passementier. Et on a visité... un atelier de passementier à la Croix-Rousse. J'ai jamais tant regretté de ne pas lui avoir posé les bonnes questions. Parce qu'elle est née dans un atelier de passementier à Saint-Étienne. Elle aurait pu nous dire. Un atelier de passementier, c'était un endroit où il y avait tout. C'était le lieu d'habitation et le lieu de travail. J'en conclus, comme Jean sait que ses parents ont eu beaucoup de mal à se débarrasser des 3 métiers. 3 métiers à tisser, c'était déjà énorme. Donc, nous, on a visité un atelier à la Croix-Rousse, à Lyon. Bon, ça devait être un peu pareil, hein. C'est des plafonds très hauts, bien sûr. Mais il y avait 2 métiers à tisser. Il y avait une petite, ce qu'ils appelaient une souillarde, c'est-à-dire une petite cuisine. Et il y avait une mezzanine avec la chambre là-haut. Et en fait, j'ai l'impression que... Comme ma belle-mère me disait que sa mère réparait ses métiers à tisser à 22h30, un jour, c'est ça qui a précipité sa fin, elle a été entraînée par son écharpe. Donc la grand-mère de Jean, elle a été attrapée par son métier et elle a fait une chute et ça n'a pas été terrible, quoi. Donc elle devait travailler aussi bien la nuit, quoi. Et c'est comme ça qu'on... on est très très intéressé par tout ce qui est passementerie parce que on a le nom d'une corporation et tout ça.